Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première lettre de Paul à Timothée. Timothée, qui a été un apprenti auprès de l'apôtre Paul pendant un temps et qui, là, se trouve maintenant responsable d'une œuvre. Et il lui écrit une lettre pour lui rappeler certaines choses, pour l'encourager, même s'il est jeune pasteur. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'a pas besoin d'être aidé et encouragé et exhorté. Et donc les exhortations qui sont là pour Timothée, elles sont bonnes pour nous aussi. Hein. Donc 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, nous allons lire les premiers 8 versets. 1 Timothée chapitre 2, et je commence à lire au verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, ces premiers versets correspondent tout à fait à notre époque. Là, nous sommes en pleine période d'élection présidentielle et on se demande ce qui nous attend. Eh bien, voilà, il dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. » En toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et c'est ce verset 8 qui nous intéresse en particulier ce matin. C'est « Je veux que les hommes prient », parlant des hommes, c'est hommes et femmes, hein, « prient en tout lieu », en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, ce n'est pas seulement prier, mais dans quel état est-ce que je suis quand je prie. Et un peu, ce matin, la méditation, ça va être très pratique, dans le sens que le thème que j'ai donné, ce sont les excuses que nous avançons pour ne pas prier. Hein, est-ce que nos excuses sont vraiment valables? Et je crois que nous avons tous été coupables d'avancer des excuses. Hein, il y a des excuses tout le temps. On s'excuse et puis on raconte quelque chose. J'ai même regardé dans le dictionnaire et il nous dit qu'une excuse, c'est une raison alléguée pour se défendre d'une accusation, d'un reproche, pour expliquer ou atténuer une faute. Donc c'est un peu la défense. Hein, on est devant un juge où on croit l'être. Parfois même on s'excuse avant que la personne ne nous regarde, hein, tellement on se sent coupable, et alors on essaie d'avancer des explications. Il y a un proverbe latin qui dit « qui s'excuse s'accuse ». Swift aurait dit « une excuse est un mensonge fardé ou maquillé ». Et un proverbe libanais qui dit « il va plus loin encore et il dit que parfois l'excuse est pire que la faute. On est plus offensé par l'excuse qu'ils ont avancée que par le fait qu'il y a eu quelque chose à arriver. Et les excuses sont là, on vit avec, on les entend, on les accepte, on les accepte pas, on les avance, et les gens les acceptent, les acceptent pas. Mais le pire, c'est qu'on avance les excuses auprès de Dieu, alors que lui, il sait tout. Hein, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il sait dans quel état nous sommes, on n'a rien à lui dire. Et pourtant, des fois, on a essayé de s'excuser devant lui, comme si on pouvait lui raconter des choses. Il sait tout. Mais quelle est notre excuse pour la négligence dans la prière? Et l'apôtre ici, eh bien, il dit, moi, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, c'est-à-dire, hein, ils sont en état d'être levés. Hein. Et donc... Vous savez, les musulmans, et je discute avec les musulmans, et parce qu'ils ont des ablutions avant de prier. J'ai dit, mais c'est bien, le symbole, il est très bien. Le seul problème, c'est que ça ne lave pas les péchés. J'ai dit, ça ne rend pas. Hein. J'ai dit, vous savez vous-même, hein, vous êtes là-dedans, et vous êtes en train de prier, et les pensées vont partout, et vous pensez à ce que vous allez faire après. J'ai dit, mais le symbole est juste. Et finalement, c'est ça, hein, c'est vraiment Dieu dit de quand on prie, c'est avec des mains pures. Hein, Dieu a dit à David, il a dit, mais non, je ne te permets pas de construire le temple. Pourquoi? Parce que tu as trop de sang sur tes mains. Hein, donc Dieu regarde, hein, ce n'est pas n'importe quoi, on ne vient pas à Dieu n'importe comment. Il dit, je demande, mais ce n'est pas parce que vos mains ne sont pas pures qu'il ne faut pas prier. Il dit, allez, lavez-les. Hein, et le péché se lave par le sang de Christ, et il est prêt à nous purifier afin que nous puissions venir à Dieu avec des mains pures et sans colère ni mauvaise pensée. Je vais vous suggérer quelques excuses qui sont souvent avancées pour expliquer la négligence dans la prière. La première que j'ai souvent entendue, c'est que je suis trop occupé, hein, trop occupé pour prier. Sommes-nous vraiment trop occupés? Ou est-ce que c'est notre temps qui est trop pris avec des activités secondaires? Le temps est rempli, mais c'est nous qui l'avons rempli, personne ne nous a imposé l'emploi du temps. Il y a les heures qui sont incluses dans le contrat qu'on a signé pour l'employeur, et puis il y a certaines responsabilités, tout ça, mais après il y a des heures disponibles et que nous remplissons avec autre chose. Et est-ce que nous nous laissons trop souvent entraîner par des occupations futiles? On a une expression, et je crois que toutes les cultures et toutes les langues ont des expressions équivalentes pour une question de j'ai gaspillé du temps, perdu du temps. En anglais, on dit tuer du temps, tuer le temps, tout ça, comme si on pouvait faire quelque chose. Mais finalement, il est là, et il passe, et qu'est-ce que j'en fais? Et comment est-ce que je l'utilise? À quelles occupations donnons-nous le meilleur de notre temps? Et est-ce que notre temps de prière, notre vie de prière ressemble à l'homme qui est tombé en panne sèche parce qu'il n'avait pas le temps pour faire le plein. Et donc après, quelqu'un l'a dépanné avec quelques litres pour qu'il puisse aller jusqu'à la station et faire le plein. Mais lorsqu'il est arrivé à la station, il a dit, je suis déjà en retard, je continue. Et puis il retombe encore en panne. Mais souvent, la vie spirituelle de beaucoup de gens, c'est ça. Hein, ils sont en panne. Quelqu'un leur donne un petit boost quelque part pour les repas. Mais après, il ne fait pas le plein. Il ne prend pas le temps. Et nous savons que pour la voiture, ben on dit, ouais, mais il n'est pas sérieux celui-là. Oui, mais vous savez, dans la vie spirituelle aussi, la prière est aussi indispensable. Nous savons qu'il faut de l'essence dans le réservoir pour la voiture. Mais sommes-nous convaincus qu'il faut de la prière dans notre vie de tous les jours, hein? Nos activités sont-elles de l'agitation aux yeux de Dieu, ou est-ce qu'elles sont des activités édifiantes et utiles qu'il faut baigner dans la prière? Est-ce que dire oh non, ben, je ne vais pas prier pour ça, ben, alors est-ce que tu devrais le faire? La question, c'est est-ce qu'on prie pour tout. Il y a des gens qui vous parlent de tout. Alors, ben, si ce qu'on fait est important, ben, on peut en parler à Dieu aussi et demander son aide. Vous savez ce que Jésus a dit à Marthe? Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté. Luc chapitre 10, c'est versets 38 à 42. Et quelle était la part que Marie avait choisie? C'était de s'asseoir au pied de Jésus et d'écouter ce qu'il avait à dire. C'était l'occasion. Il était de passage. Elle voulait apprendre. Elle voulait l'écouter. On peut faire. Marthe était occupée à faire des bonnes choses. Hein. C'était pas qu'elle ce qu'elle faisait était mal. Elle s'occupait du repas et puis que ça soit bien fait, que ça soit. Et c'est toujours apprécié quand les gens le font bien. Mais il dit, mais il y a quand même, il y a des priorités. Est-ce que je prends le temps de m'asseoir au pied de Jésus dans ma journée? Et puis de prier, c'est pas seulement parler, mais c'est aussi d'écouter. Hein, c'est s'asseoir et lui donner le temps de nous parler aussi. Et alors si notre emploi de temps ne nous accorde pas vraiment du temps pour prier, peut-être qu'il faut le revoir. Hein, peut-être que ce que je... On dit, mais j'ai pas le temps. Je crois que c'est Martin Luther, et justement ça fait 500 ans depuis Martin Luther, mais Martin Luther disait, ah, j'ai tellement à faire aujourd'hui, il faudrait que je passe plus de temps à prier. Lui trouvait que finalement il devenait plus efficace parce que d'abord il avait pris le temps de se recueillir devant le Seigneur. Et c'est vrai que dans l'expérience, et je l'ai faite moi-même, hein, c'est que des fois on est tellement on est pressé par toutes les choses qu'on fait que finalement on n'est pas efficace, on court dans tous les sens, et puis finalement à la fin de la journée on dit, bah, j'ai rien fait, pourtant j'avais tant à faire. Parce que tellement c'était la panique. Il dit, arrêtez. Même on nous dit, mais arrêtez-vous, organisez votre journée pour être plus efficace. Mais si en plus je m'arrête et puis je me positionne devant le Seigneur, et c'est avec lui que j'organise ma journée, alors là je peux être encore plus efficace parce que j'ai son aide. L'excuse je suis trop occupé n'est pas une excuse recevable. Si Dieu est vraiment Dieu, hein, pour moi. Une autre excuse. Je ne suis pas spirituellement en état pour prier. On ne vient pas à Dieu comme ça n'importe comment, et moi je ne suis pas en état de prier, donc je ne prie pas. C'est une excuse. Qui s'est pas senti trop découragé, ou trop déçu, ou trop incrédule, ou trop sec pour prier. Je suis pas en état. Je suis fâché. Je suis fâché contre Dieu. Je suis. Non, non, j'ai des mauvaises pensées. Je peux pas prier. Et c'est vrai. On a tous vécu. On a été dans ces situations-là. On a été dans cet état-là. Il y a quelque chose qui nous a remonté. Est-ce que c'est une solution de remettre la prière à plus tard, sans préciser quand, hein? Ben, quand j'irai mieux. Oui, mais tu iras mieux quand? Dans cet état-là, et si tu ne fais pas quelque chose de nécessaire, tu n'iras pas mieux. Vous savez, il suffit d'être épuisé physiquement pour se dire, j'ai pas la force pour prier. Combien de fois nous sommes arrivés à la fin de la journée, épuisés, fatigués, physiquement ou peut-être moralement épuisés? Dormir. Et on est là, et puis on n'a pas prié. Pourquoi? À cause de notre état physique. Parfois, c'est le stress que nous avons ressenti, et puis on se sent vidé et incapable de prier. Parce que quand même, prier, ça demande une concentration, ça demande, si on le fait sérieusement, hein, c'est pas juste. Si notre prière se réduit à réciter quelque chose rapidement comme ça, entre deux portes, ça, c'est pas de la prière. Hein. Peut-être que ça calme un peu la conscience un petit peu, mais c'est pas de la prière. Dieu dit, mais écoute, non, moi j'ai rien entendu. La question c'est, et si je vais prier correctement, c'est comme quand si je vais parler avec quelqu'un sérieusement, je pense et je me concentre et je lui donne toute mon attention. Parfois, il suffit que quelqu'un ait prononcé une parole qui m'a blessé, et on ne s'attendait pas, ils nous ont un peu déstabilisés, et tout d'un coup, tellement ça préoccupe notre pensée qu'on n'arrive pas à prier. Hein, on dit, non, non, je ne peux pas, je suis en train de... ça bouillonne par rapport à cette personne, où j'essaie de comprendre pourquoi elle a réagi de cette manière-là, et j'arrive pas à me concentrer pour prier. Et ça nous arrive, hein, c'est pas une question de ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est ça la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment c'est une solution? C'est de dire, bon, ben non, je ne me sens pas en état de prier, donc je ne prie pas. Hein, c'est ça qu'on. Il y a des gens qui disent, bon, même manger, ils disent, ah, non, je n'ai pas envie de manger. Oui, mais ils ne peuvent pas continuer dans cet état de ne pas vouloir manger. Éventuellement, combien même sont passés par là, je dis, oui, mais il y a un moment où je me suis forcé à manger parce qu'il fallait manger, je sais qu'il faut manger, même si je n'ai pas envie. Et si on le fait pour la nourriture, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour notre vie spirituelle, hein? Derrière ces excuses se cache une idée que le Père Céleste veut nous entendre uniquement quand quand je me sens bien, quand j'ai des belles choses à lui dire. Et sinon, je ne lui parle pas. Vous savez, dans une relation, il n'y a pas toujours que des bonnes choses. Hein, quand il y a une bonne relation entre deux personnes qui s'aiment et qui s'apprécient, on partage tout. Les bonnes choses, c'est les bons jours et les mauvais jours. Depuis quand est-ce que la prière est réservée aux bien portants? Aux conquérants, aux forts, aux résistants. Est-ce que la prière, c'est uniquement pour eux? Ben, quand on est fort, quand on est. Et tout va bien, en général, là, c'est notre problème, c'est qu'on ne sent pas le besoin de prier. Parce que tout va bien. Alors, si je ne prie pas quand tout va bien, et quand ça va mal, je n'ai pas envie de prier, alors je prie quand? Hein, vous savez, on se met dans des drôles de situations, alors qu'on en a besoin. La première fois que nous sommes adressés à Dieu, dans quel état est-ce que nous étions? Hein? Quand nous sommes venus à lui pour recevoir le pardon de nos péchés, on est venu à lui rempli de regrets, reconnaissant notre état. Vous savez, normalement, quand vous êtes invité, genre, si vous êtes enrhumé, si vous êtes malade, tout ça, vous n'allez pas les voir, vous dites non, je suis malade, tout ça, je m'excuse, je ne vais pas pouvoir venir. Mais le médecin, on y va. Hein. Le pauvre, là, lui, il reçoit. Vous allez dans sa salle d'attente. Là, des fois, on n'a même pas envie d'être dans la salle d'attente tellement que ça touche dans tous les sens. On dit, c'est pire ici, je préfère être dehors. Lui, on va le voir. Et pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas nous recevoir? Parce qu'on ne va pas bien. Jésus, combien de malades a-t-il reçu? De souffrants, de pécheurs. Et est-ce qu'il les a bien reçus? Ben, lisez votre Bible et vous verrez comment il les a reçus. Le Seigneur reçoit. Vous savez, c'est au point que dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il y a ce verset qui est apprécié de beaucoup de gens. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Vous voyez le contexte de ce passage est intéressant aussi. Et je vais lire les versets, surtout les versets qui suivent. Donc Matthieu chapitre 11, et c'est à la fin, verset 28, c'est venez à moi, hein, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et 29 dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Donc, quand il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il ne parlait pas uniquement du problème physique, mais il parlait aussi psychique, de notre âme, de notre état moral. « Je ne me sens pas bien. » Physiquement, oui, il n'y a pas de problème. Puis après, si je n'allais pas bien, j'irai voir le médecin. Mais si en moi, je ne me sens pas bien, eh bien, il dit, ben, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Quand il parle de cette fatigue, il parle de cette fatigue morale, cette fatigue psychique, cette lassitude qu'on peut avoir, cette blessure qu'on peut porter parce que, pour une raison ou pour une autre, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il nous invite à venir. Il dit, en fait, c'est raison de plus pour prier, parce que tu ne te sens pas bien, parce que tu ne te sens pas en état de prier. Ben justement, c'est là qu'il faut venir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Et pour illustrer l'importance de la prière, Jésus, dans Luc chapitre 18, il raconte une parabole. Il parle de la veuve et du juge inique, du juge athée. Il parle de cette veuve qui venait voir le juge parce qu'elle était veuve, parce qu'elle n'était pas importante à la société. Chaque fois qu'elle venait lui voir, elle dit « Écoute, bon, ne me dérange pas, j'ai rien à faire, je suis occupé, tout ça. » Parce que, bon, elle n'était pas très importante économiquement et puis elle ne représentait pas grand-chose. Et puis, il n'avait rien à gagner d'aider cette femme. Et, mais elle le poursuivait partout. Constamment, elle le poursuivait. Et puis, il ne pouvait pas sortir au marché sans qu'elle soit là. Et chaque fois qu'il sort de chez lui, elle était là. Et tout le temps. Et finalement, le Seigneur nous dit, finalement, le juge, il s'est dit, bon, je vais rendre service à cette dame, je vais l'aider parce qu'elle me casse les pieds. Un peu, c'est ça, dans le langage, je l'ai dit dans un autre langage, hein, le langage d'aujourd'hui. Jésus dit, voyez, dans le pire des situations, où on a affaire avec un homme qui n'a aucune envie d'aider et qu'on représente rien qui puisse attirer son attention, il y a moyen d'obtenir des réponses. Et il est en train de dire, et alors Dieu, vous le mettez où? Lui, c'est pas du tout, il n'est pas du tout comme le juge. Et il donne un autre exemple dans Luc chapitre 11, versets 5 à 10. Il nous parle de cet homme qui, au milieu de la nuit, va frapper chez son voisin. Il dit, j'ai des amis qui viennent d'arriver et je n'ai pas de pain à les servir. Tu peux me passer 3 pains? Et celui qui est dans la maison, il dit, oh non, mais j'ai déjà fermé les portes, nous sommes tous au lit. Écoute, ne me dérange pas. Et il continue à frapper. Et puis il dit, écoute, il continue à frapper. Il continue. Finalement, l'homme se lève, il va chercher les pains, il lui donne les pains, parce qu'il se dit, le gars, si je ne lui donne pas les pains, il continue à frapper. On ne va ni dormir, ni rien du tout. Il dit, encore une fois, il est en train de dire, dans le pire des cas, quand on a affaire avec quelqu'un qui n'a pas envie, on arrive à obtenir. Notre Dieu, notre Père Céleste, lui a envie. Il veut aider. Il veut intervenir. Alors il dit, pourquoi ne viendriez-vous pas à lui? C'est vrai qu'on est gêné d'aller embêter quelqu'un qui ne veut pas déranger. Mais parfois, bon, l'urgence, on le fait quand même. Il dit, mais Dieu dit, venez à moi. Hein? Et dans Luc 18, Jésus, il nous dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il l'encourage. Il dit, vous avez besoin de prier. Je vous encourage à prier. La prière, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui reconnaissent leur faiblesse, leurs besoins. Tous ont besoin, mais certains ne le reconnaissent pas. Alors, on a déjà vu deux excuses. Hein. Une, c'est « je suis trop occupé ». Est-ce que c'est valable ? Deuxièmement, une deuxième excuse, c'est « je ne suis pas spirituellement en état pour prier ». Il y a une troisième excuse, c'est « je ne ressens pas le besoin, hein, je vais bien, je suis bien comme ça ». Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas et qui ne vont pas bien. Hein, mais autant la seconde excuse donne l'impression que Dieu refuse un peu, on ne veut pas être hypocrite dans notre prière. Mais ici, on transmet l'idée que on voudrait. Moi, je veux que ça vienne de moi, ça vienne tout seul. Et si ça ne vient pas tout seul, ben, je ne vais pas le faire. Il y a des moments où nous avons de l'appétit, il y a des moments où nous n'avons pas de l'appétit. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin de prier, de manger. Hein, que j'ai de l'appétit ou pas. Je mange, peut-être je ne mange pas de la même manière, mais je mange, je me force à manger si je n'ai pas d'appétit. Parce que je sais que j'en ai besoin pour mon entretien. Et puis quand elle vraiment mange pas, alors là on a prévu des institutions qu'on appelle les hôpitaux où on emmène les gens et puis on les oblige de se nourrir, on le pique directement dans les veines pour les nourrir. Tellement on sait que c'est important. Alors, mais on en a autant besoin de prier. Je dis, bon, non, mais je sens pas le besoin, ça vient pas tout seul, j'attends le jour où j'ai vraiment envie, c'est spontané. Eh bien, sachant que le Seigneur sonde les cœurs, hein, il sait exactement ce que nous avons dans nos cœurs, et c'est pas la peine de faire semblant et d'avoir cette excuse qui paraît bonne. Religieuse et respectueuse, mais qui en fait c'est une excuse. Hein, Dieu ne se fie pas à nos explications. Dans 1 Thessaloniciens 2, 9, il dit: Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Dieu sonde nos cœurs. Alors c'est. N'ayons pas. On ne doit pas aller lui raconter n'importe quoi. Quand je dis je ne sens pas le besoin de prier, il y a de fortes chances que je suis en train d'exprimer cette pensée. Je crois la prière, mais je veux traiter cette situation tout seul. Je n'ai pas besoin de prier. Je crois que bon, je ne vais pas prier parce que ça, je vais le régler tout seul. Et alors, on ne prie pas, puis après, des fois, ça ne marche pas. Si les chrétiens qui s'abritent derrière cette assurance trompeuse ne se laissent pas reprendre par l'Écriture, Dieu risque de leur parler dans un langage terrible de tragédie. Lorsqu'ils nous voient tellement enflés d'orgueil que nous estimons ne pas avoir besoin de lui, il fait preuve de bonté envers nous en nous remettant à notre place. Et ça, c'est cité du livre La prière renouvelée par Donald Carson. Il dit, parfois Dieu y voit. Et nous, on refuse parce qu'on veut faire les choses de notre manière, et puis lui, on est obligé de nous mettre dans une situation où on ne peut pas faire autrement. Hein. Et souvent, il est obligé de permettre des situations désagréables pour que nous nous rendions compte qu'on a besoin de lui. Vous savez, il y a un exemple dans l'Écriture, c'est quand Josué se trouve avec les Gabaonites. Et alors. Il nous est dit, tout à fait dans Josué 9, il nous dit que Josué et les anciens, ben, ils ont pensé que la situation était tellement simple qu'il fallait même pas consulter Dieu. Ils n'avaient pas besoin de consulter Dieu, ben, bon, ces gens viennent de très loin, on veut les aider. Ils ont reçu, puis après, une fois, ils se sont rendus compte de la ruse et ils étaient pris. Et après, pendant des années, le peuple a dû subir une situation qui n'y avait aucune raison d'être, mais c'est parce que quelqu'un a négligé de prier, de consulter Dieu. Hein? Et donc, et ça arrive parfois, on dit, oh non, moi je vais m'en occuper, j'ai pas besoin de prier, je vais m'en occuper, puis après il y a une situation, après on est obligé de vivre avec. Il y en a qui ont épousé des personnes sans consulter Dieu, sans consulter si Dieu approuve ce mariage, et puis après, d'un coup, ils se retrouvent dans une situation qu'on ne peut pas défaire et avec laquelle ils doivent vivre. Vous savez, on doit venir à Dieu et jamais penser qu'on n'a pas besoin de son aide, de sa sagesse. Alors, on a toujours besoin de lui en parler. Une autre excuse, j'ai beaucoup prié, mais rien ne s'est passé. Ça n'a rien donné. Alors, je ne prie plus. Hein, combien de fois j'ai prié, puis il n'y a rien eu. Eh bien, il y a plusieurs raisons pourquoi on n'aurait pas de réponse. Parce que ce n'est pas parce qu'on a demandé qu'on l'obtient. Hein. Ce n'est pas comme ça à la maison avec les parents. Et puis Dieu est un père. Il dit. Dans Jean 14, il nous dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. La question, c'est que est-ce que je suis venu par Jésus-Christ? Ou est-ce que j'ai juste, en mon honneur, moi, je suis Steve Barnes, et Dieu, je te demande, et il te dit, je ne connais pas. Tu viens au nom de qui? Moi, je viens au nom de moi-même. Ah ben, ça va pas loin, hein, pas plus qu'à la mairie. Hein, je viens au nom de moi-même et dis, ouais, vous êtes qui? Je voudrais voir le maire. Vous savez, c'est pas comme ça. Et ça, c'est juste le maire. Vous savez, il dit, est-ce que nous sommes venus au nom de Jésus-Christ? Est-ce que c'est... Déjà, nous avons un lien avec Jésus-Christ. Pour qu'il nous entende? Est-ce qu'il y a une raison pour qu'il nous entende? Et après, bien sûr, il y a certaines prières qui exigent un peu de persévérance. Dieu parfois, il répond pas au premier appel. Les puritains disaient qu'il faut prier jusqu'à ce que je prie. Prie jusqu'à ce que tu pries. C'est-à-dire, tu es en train de prier jusqu'à que tu te trouves vraiment en train de prier. Parce que c'est vraiment là où... commence à prier, t'adresser à Dieu, jusqu'à ce que tu trouves qu'il y a communion. Hein, parfois, on prie à Dieu comme ça, vite, en passant. Et puis... il dit non, je veux une relation. Je veux pas, c'est pas juste laisser un message sur son répondeur. Hein. C'est question de vraiment avoir une relation avec lui. Il dit parfois dans Jacques chapitre 3, 4, verset 3, il nous dit parfois nous demandons mal parce que nous demandons pour satisfaire notre chair. Finalement, je lui demande quelque chose, mais c'est pour. Encourager quelque chose qui n'est pas bon chez moi. Imaginez que vous êtes un mauvais élève, hein, les notes sont pas très bonnes, et puis vous allez votre père et dites, papa, j'aimerais que tu m'achètes des jeux vidéo. Croyez qu'il va les donner. S'il vous aime, il va dire non, tu vas travailler. Pas des jeux vidéo, déjà tu es distrait. Il dit, parce que vous demandez, mais ça ne correspond pas à besoin, ça n'a rien à faire. Alors c'est un non. Et parfois, en tant qu'être humain, on s'approche de Dieu, on lui demande des choses, mais il dit, mais si je te donne ça, je ne te verrai plus jamais. Je t'aime trop. Vous savez, il faut comprendre que Dieu, c'est pas un numéro qu'on appelle et puis on obtient ce qu'on veut. Dieu, c'est une personne. C'est un Père qui nous aime et qui nous accorde selon son amour, pas selon nos idées. Le Seigneur éprouve les cœurs pour savoir ce qu'il y a dans les cœurs. 2 Corinthiens 32, verset 31. Et il nous parle d'Ézéchias, et Ézéchias était là, et Dieu l'a laissé, il a dit qu'il l'a éprouvé, il l'a laissé se laisser influencer par cette délégation qui venait de Babylone, parce que Dieu voulait voir ce qu'il y avait dans son cœur. Ce n'est pas tellement que Dieu avait besoin de voir ce qu'il y avait dans son cœur, c'est que Ézéchias avait besoin de voir ce qui était dans notre cœur. Dieu sait ce qui est dans notre cœur, mais parfois il nous laisse dans des situations, et alors... Et après, c'est là où je vois ma réaction. Vous savez, des fois, on est tellement pieux, tout ça, puis après, il suffit d'un... C'est fou, le truc qui peut arriver, où les pensées qu'on peut avoir par rapport à une personne. Hein. Quelqu'un nous a coupé, quelqu'un a coupé devant nous au supermarché, alors, et les pensées qu'on a pu avoir, mais qui étaient... beaucoup plus loin, hein, ce qu'on avait pu penser. Et puis, parfois, ça se dit. Hein, et on a tous assisté à ces scènes où les gens se disent des choses pas gentilles et pour une bricole. Et on serait tous passés plus vite s'ils ne s'étaient pas disputés. Hein. Là, c'est le coup passé. Puis ça fait une minute de plus, mais c'est pas grave, on passe. Mais là, vous vous disputez, c'est un quart d'heure plus tard qu'on passe. Ils n'arrangent rien. Et donc, parfois, le Seigneur nous laisse dans cette situation pour que je découvre ce qu'il y a dans mon cœur. Hein. Vous baladez dans la campagne, là, puis on voit une flaque d'eau, et l'eau paraît limpide. On dit, ah, ça, c'est presque propre, on pourrait presque boire dedans. Ah oui, mais il suffit que quelqu'un patauge dedans, puis tout d'un coup, alors là, on se rend compte ce qu'il y a dans le fond. Mais c'est ce qui arrive souvent dans nos cœurs, hein, c'est hein, quand tout est calme, tout est tranquille, on est des petits saints. Mais il suffit que quelqu'un vienne puis remuer les choses avec quelque chose, et puis tout d'un coup, on se rend compte ce qui peut remonter. Et puis après, il y a des situations comme Zacharie et Élisabeth qui ont prié pour un enfant pendant des années et des années. Ils étaient pieux, ils aimaient le Seigneur, il n'y avait rien à leur reprocher. Et ils ont prié, ils ne l'ont pas eu. Jusqu'à que très tard, pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, eh bien, sa venue était liée à la venue de Jésus-Christ. Et donc, il y a le plan de Dieu. Et donc, il faut tenir compte de tout cela. Après, on n'a pas toujours des explications pourquoi on n'a pas eu une réponse que l'on a voulu. Et comme dit certains, il y a trois réponses possibles. Il y a oui, il y a non, et puis il y a attend que le Seigneur peut nous donner dans la prière. Mais en fait, quelle est ma première raison pour prier? Est-ce que je prie pour obtenir ou est-ce que je prie pour être en communion avec Dieu? Pour lui parler, pour lui donner le temps de me parler. Si je prie dans ça, je ne suis jamais déçu. Là, il est toujours disponible. Mais si je viens à Dieu uniquement pour recevoir quelque chose, c'est vrai que je ne vais pas toujours recevoir. C'est ça que je dis souvent à mon dentiste. Je dis, monsieur, je vous traite comme beaucoup de gens traitent Dieu. Je viens quand j'ai mal. Ouais. En général, ils ne disent rien parce qu'ils ne veulent pas partir sur ce sujet-là. Et après, il y a une autre excuse qui est donnée, c'est « j'ai trop souffert, j'ai trop souffert, je ne peux pas prier ». Ah là là, non. Et vous savez, on ne peut pas permettre à notre vie spirituelle de s'enliser dans l'apitoiement. Parce que là, j'ai les yeux fixés uniquement sur mes souffrances et sur mes malheurs et ce que j'ai subi et ce qu'on m'a fait subir et l'injustice. Et j'ai tellement les yeux là-dessus que je ne peux plus voir Dieu. Et c'est sûr que ça me fait me plonger, hein. C'est pas bon pour la santé. J'ai peut-être subi une grande injustice, mais est-ce que j'en ai subi une pire que celle de Jésus sur la croix? Mais même lui, alors qu'il était sur la croix, eh bien, il recherchait la communion avec le Père. Et il a même tellement désiré cette communion avec le Père qu'il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, c'est pas parce qu'on passe par l'injustice, parce qu'on a souffert des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas une raison pour ne pas rechercher Dieu. Paul dit, « Mais dans toutes ces choses, » et il parlait des tribulations, des angoisses, des persécutions, la faim, la nudité, le péril, l'épée, il dit, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il pouvait voir au-dessus de tout ce qu'il avait vécu, et puis il voyait l'amour de Dieu. Il recherchait cet amour-là. Et il voulait répondre à l'amour de Dieu, et il savait que Dieu appréciait le retour. Le vrai problème n'est peut-être pas une question de souffrance, mais plutôt de situation que nous n'arrivons pas à pardonner. Hein. Et peut-être ce qui m'empêche de prier, ce n'est pas tellement que j'ai souffert, mais c'est que je n'arrive pas à pardonner à celui qui m'a fait souffrir. Et là, et c'est vrai, hein, ça peut être un beau-père qui a abusé de nous, ça peut être un mari qui nous a harcelés, ça peut être un père qui nous a provoqués, une mère qui ne voulait pas de nous. Un ami qui nous a lâchés, un patron qui nous a renvoyés. Il y a toutes sortes de choses injustes qu'on ne comprend pas, qui peuvent arriver. Et tellement je suis préoccupé par ça que je n'arrive plus, alors que Dieu était pour rien dans cela. Hein? Mais je ne lui parle pas parce que voilà, quelqu'un n'a pas été gentil avec moi, donc je ne te parle plus. Et si avec les amis on faisait ça, je dis, mais ouais, mais pourquoi tu me parles plus parce que l'autre il a pas été gentil, mais moi, hein, qu'est-ce que je t'ai fait? Et Jonas a refusé d'obéir à Dieu. Il a refusé de prier, même. parce que Dieu l'avait envoyé prêcher aux habitants de Ninive qui avait fait souffrir Israël. Il a dit non, mais je ne vais pas leur prêcher parce que tu risques de les pardonner. Non, je ne vais pas y aller. Et il a préféré prendre le risque de mourir dans la désobéissance. Il a dit dans la tempête, là sur le bateau, il leur a dit écoutez, jetez-moi à la mer. Il a préféré mourir dans la désobéissance que prendre le risque qu'il soit pardonné. Vous vous rendez compte à quel point on peut arriver. Et Dieu l'a mis dans une situation où il a prié du ventre du poisson, il a prié, et Dieu a entendu, et Dieu a agi. Et combien de fois, nous aussi, des fois, on dit, je ne vais pas prier, je sais que je ne suis pas bien, je vais rester pas bien, parce que je ne suis pas content, parce que je ne veux pas que... Et je ne veux pas pardonner, je ne veux plus lui parler, je ne veux rien faire. Et je reste et je ne parle plus à Dieu, je suis fâché avec Dieu et tout. Il dit, mais c'est quel comportement ça? C'est quel comportement? Une dernière excuse que je donne, mais il y a certainement qu'on pourrait trouver d'autres, une dernière. C'est une excuse qui paraît très, très bien au début. Il dit, je n'ai pas prié quand tout allait bien, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Quand ça allait bien, je ne priais pas, ce n'est pas maintenant que je suis dans le trou que je vais prier. Et on pourrait dire, celui-là, c'est un dentiste. Mais vous savez, et si je faisais ça avec le dentiste, alors que j'ai... un abcès comme ça, je dis, ah non, mais quand j'allais bien, je ne l'avais jamais appelé, mais c'est pas parce que quand j'ai un abcès, maintenant que je vais l'appeler. Est-ce que c'est pas une réaction normale? C'est au dépanneur, quand je suis en panne sur l'autoroute, je dis, oh oui, mais je l'appelle jamais quand ça roule bien, pourquoi est-ce que je vais l'appeler maintenant que je suis en panne et que j'ai des vapeurs qui montent de sous le capot ou bien le chauffagiste que j'appelle pas parce que j'appelle jamais. Et février, la chaudière ne fonctionne plus, alors je vais l'appeler. Non, je ne vais pas l'appeler, parce que je n'ai pas appelé quand il l'était pour lui donner... Au nouvel an, je n'ai pas souhaité les meilleurs vœux. Là, je ne vais pas l'appeler parce que la chaudière est arrêtée, et puis il fait froid avec Rolotte. On ne pense pas ça. Ou le banquier, il dit, écoutez, je n'ai pas été le voir, le saluer, et puis maintenant que j'ai les pépins, je vais aller le voir. Non, je ne vais pas aller le voir, je me débrouille. Ce n'est pas un comportement à avoir. Et même si, vous savez, Adam et Ève n'ont pas prié avant de manger du fruit de l'arbre, ils ont fait une bêtise. Ils ont écouté Satan, mais ils n'ont pas consulté ce que Dieu avait dit. Mais ça n'a pas empêché que Dieu vienne après eux et dise, Adam, où es-tu? Et c'est pareil dans nous aussi, dans nous, peu importe, dans la situation dans laquelle je me trouve, qu'on m'ait mis dans cette situation, que je me suis mis dans cette situation, je dis, c'est ma faute, c'est ma bêtise que je me suis mis là, il faut que je sorte tout seul, je ne vais pas demander à Dieu de m'aider. Non, on vient toujours à Dieu. On peut toujours venir à Dieu lui demander. Il veut nous aider. Vous savez, on pourrait les excuses, on pourrait les allonger, parce que l'homme est un talent terrible. Il n'a pas besoin d'aller à l'université et d'avoir une maîtrise en quoi que ce soit pour pouvoir donner des excuses à Dieu. On en avance tout le temps. Mais la réalité, c'est que Dieu veut que je vienne à lui tel que je suis. Et il reçoit toujours. Et surtout quand je suis enfant de Dieu, alors là, il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il dit, et Jésus disait du temple de Jérusalem, mais ce qui est vrai du temple de Dieu, c'est ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, et bien alors c'est un lieu de prière. Et il faut de la prière, il faut que nous prions. Alors, si ça n'a pas été à la hauteur, et si je n'ai pas prié comme je devrais, ici, 1 Timothée chapitre 2, il nous donne déjà commencé. Ça correspond tout à fait à notre besoin. Il pourrait déjà commencer à prier pour les rois et ceux qui sont en dignité. Et en France, on pourrait prier pour les élections, là, maintenant, parce que c'est de notre intérêt, parce que nous avons besoin d'une vie paisible et tranquille. et on ne sait pas ce qui nous attend. Et Dieu, et on peut déjà commencer à prier Dieu. Et puis il nous dit aussi, il veut que aucun homme, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous pouvons prier pour le salut des âmes perdues. Remercier Dieu, parce qu'il nous dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Déjà, on peut remercier Dieu pour cela. Et vous savez, à partir du moment qu'on commence à prier et qu'on commence à mettre les choses à leur place, déjà, mettre Dieu à sa place, déjà, je lui adresse la prière, je l'appelle Père, je commence à reconnaître mes erreurs, ma négligence, et je commence à prier, et puis je commence à prier pas seulement pour mes besoins, mais je prie pour d'autres aussi, des besoins que je sais qu'ils ont. Vous savez, tout d'un coup, ça change toute mon attitude, mon comportement, et il y a une transformation qui se fait rien que par le fait de prier. Je relis ce verset par lequel nous avons commencé. Paul dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, premièrement, je confesse mes péchés, je mets ça en ordre, et puis je commence à parler à Dieu. Et je commence à lui dire tout. Je peux lui dire tout. Il le sait déjà. Donc, autant le lui dire, me décharger, et en prenant le mot, de charger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Surtout si nous sommes enfants de Dieu. Mais en plus, il reçoit même les gens qui sont pécheurs et qui ont besoin de pardon. Il dit, venez, je vous reçois. Il sait combien Jésus a marché sur cette terre, il sait ce que c'est la méchanceté des hommes. Et il comprend notre souffrance, et il compatit, et pas seulement il compatit, mais il offre, il propose des solutions. Et nous devons venir à lui. Que le Seigneur nous aide à ne pas être négligent avec la prière. Nous avons, certainement qu'on peut tous admettre que nous avons besoin de prier plus que nous ne prions. Et vraiment compter sur lui et vraiment nous remettre à lui. On va se donner quelques minutes de silence et chacun pourra déjà, les choses qui ont été soulevées, qui correspondent à lui personnellement, déjà de dire deux, trois mots à Dieu par rapport à cela. Et puis ensuite, je vais prier. Thank you.